beaucoup.
Avec plaisir.
Donc maintenant, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus conceptuel avec Jean-Marc Limousin. Bilan hydrique et suivi du cycle de l'eau à l'échelle de l'écosystème forestier, les mesures du réseau ICOS en France. Il est là, le voici, Jean-Marc, bienvenue. On avait utilisé à un moment dans le projet de programme des formules un peu mystérieuses sur les sites instrumentés, c'était ça. Mais vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, voilà, vous m'entendez. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc Limousin, je suis chercheur au CNRS à Montpellier. Et je vais vous présenter aujourd'hui un travail collectif en fait du réseau français ICOS France. Donc j'ai mon collègue Nicolas Delpierre qui est en ligne et qui pourra aussi intervenir s'il me voit dire des bêtises, puisqu'il m'a aidé à faire cette présentation avec tous les collègues du réseau et des différents sites que je vais vous présenter. Et donc c'est pour vous parler cette fois-ci donc du bilan hydrique et du suivi de la mesure en fait de cette fameuse évapotranspiration dont vous avez déjà entendu parler beaucoup ce matin, donc par ces réseaux de mesure. Donc pour remettre ça, donc du coup vous l'avez déjà vu, ça va me simplifier la tâche. Claude et Patrick Lachassagne en ont parlé. Le bilan hydrique d'une forêt, donc ça se présente de cette façon-là. Donc un bilan, c'est les entrées d'eau et les sorties. Alors les entrées, c'est principalement, on l'a dit, c'est la précipitation. Donc c'est la quantité d'eau qui arrive de l'atmosphère et qui tombe sur l'écosystème forestier. Il peut y avoir aussi des entrées d'eau avec des remontées de nappes dans certaines situations, certains sols où la nappe phréatique est assez superficielle et peut être accédée par les racines des arbres. On pourra revenir là-dessus. Et après, il y a les sorties. Donc il y a d'une part les sorties vers l'eau bleue. Donc ça, c'est tout ce qui est, on l'a dit précédemment, le drainage vers les eaux souterraines ou le ruissellement de surface. Donc ça, c'est l'eau qui est restituée dans le système hydrologique, et il y a toute l'eau qui va être, on va dire, consommée par l'écosystème forestier. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, c'est justement parce que ça combine l'évaporation et la transpiration. Si je passe donc à la diapositive suivante. Donc cette évapotranspiration, donc il y a l'évaporation de l'eau qu'on appelle l'eau libre, l'eau qui transite pas par l'intérieur des plantes. Et donc cette eau, elle peut s'évaporer soit directement, j'aurais dû rester sur le précédent, elle s'évapore soit directement depuis le sol, c'est-à-dire quand on est dans des situations typiquement dans les forêts décidues ou les périodes où il n'y a pas de feuilles en hiver, le sol est directement exposé, même quand on est sous le couvert végétal en fait. L'eau peut s'évaporer du sol, surtout quand il est très humide en surface. L'eau peut repartir directement dans l'atmosphère. Il y a toute une évaporation qui se fait aussi depuis l'eau interceptée par le feuillage. Et ça, on a dit qu'on l'a vu qu'en forêt, ça pouvait être des quantités assez importantes, puisque les forêts interceptent de l'eau à la fois dans le feuillage, mais aussi dans l'écorce et sur tout ce qui est branchage et tronc. Et ça peut représenter plusieurs millimètres d'eau, c'est-à-dire que ça représente plusieurs litres par mètre carré en fait, donc plusieurs dizaines de mètres cubes à l'hectare d'eau qui peuvent être retenues dans le feuillage ou dans les troncs, et ce qui fait que la pluie qui arrive réellement au sol est généralement inférieure à la pluie qui tombe au-dessus de la canopée. Donc c'est ce qu'on appelle la pluie nette, ou ici c'est ce qui est représenté par pluie au sol. Et enfin, donc il y a l'eau qui est consommée par les plantes proprement dit, par les végétaux. Donc ça, en forêt, c'est principalement les arbres, mais il y a aussi toutes les espèces de sous-bois qui pompent, qui absorbent de l'eau dans le sol et qui évaporent cette eau par les feuilles. Et donc ça, c'est vrai, la transpiration des végétaux. Et donc, ouais, voilà, ça marche. Et donc l'eau réévaporée dans l'atmosphère, donc qui est cette évapotranspiration, on a des méthodes pour la mesurer directement. C'est en particulier les méthodes qui sont mises en œuvre dans le cadre du réseau ICOS, dont je vais vous parler un peu après, qui sont des méthodes de micrométéorologie. Donc on utilise des tours, ce qu'on appelle des tours à flux. Donc ce sont des tours qui sont situées comme ça, au-dessus de la forêt, donc avec une hauteur de plusieurs mètres au-dessus de la canopée, des arbres dominants, et sur lequel on a des capteurs de haute précision, haute technologie, qui nous peut d'une part des analyseurs de gaz à haute fréquence qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de fois par seconde les concentrations en CO2 et en vapeur d'eau dans l'air qui est au-dessus de la forêt. Et on couple ça avec des mesures de vitesse du vent verticale. Et comme ça, pareil qu'on fait plusieurs dizaines de fois par seconde. Et donc comme ça, on peut savoir si le flux de CO2 ou le flux d'eau va vers le haut, vers le bas, et faire le bilan entre tout ce qui rentre et tout ce qui sort en phase gazeuse, cette fois-ci. C'est des instruments qui ont à l'origine été mis en place principalement pour faire des bilans de carbone des écosystèmes, mais il se trouve que ça nous donne aussi des données sur les bilans d'eau, puisque ça nous permet de mesurer les échanges d'eau en phase gazeuse au-dessus de l'écosystème forestier. Et l'avantage de cette mesure aussi, c'est que ça nous donne des données en continu, 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec des mesures qui nous permettent vraiment d'établir de façon très précise le bilan hydrique de la forêt. Alors, ça, c'est parmi les avantages. Peut-être l'inconvénient, c'est que ça ne nous permet pas de différencier l'évaporation et la transpiration, puisque là, on mesure le total, en fait. On mesure l'échange de vapeur au-dessus de la forêt. Donc, on peut compléter ça, en fait, avec des mesures qui nous permettent de distinguer les différents flux. Et le principal, en fait, c'est de mesurer directement la transpiration des arbres. Alors pour cela, il y a des techniques où on utilise ce qu'on appelle des capteurs de flux de sève, c'est-à-dire des capteurs qui sont directement insérés à l'intérieur du tronc des arbres et qui nous permettent de mesurer la vitesse de la sève à l'intérieur du tronc. Alors c'est des vitesses que vous voyez qui sont assez faibles, hein, qui sont de l'ordre de quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres par heure. Une fois qu'on sait donc la vitesse de la sève à l'intérieur du tronc, si on connaît la surface d'aubier, la surface de tissu conducteur de sève de chaque arbre, ça nous permet de mesurer individuellement la consommation d'eau des arbres et donc de savoir combien un arbre utilise d'eau par jour, transpire d'eau par jour. Donc là, on est de l'ordre de la dizaine de litres, de la dizaine à la centaine de litres. Ça dépend des arbres. Et après, si on a l'inventaire forestier et qu'on connaît le nombre d'arbres dans la forêt, la distribution en classes de diamètre, enfin qu'on a l'inventaire des classes de taille, des espèces et des arbres sur une parcelle forestière, on peut multiplier la consommation de chaque arbre par le nombre d'arbres, et ça nous donne la transpiration de la forêt. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est de l'ordre de quelques millimètres par jour, 1 à 4 millimètres par jour, ce qui fait 10 000 à 40 000 litres par jour. Puisqu'un millimètre, c'est 1 litre d'eau par mètre carré, mais c'est aussi 10 mètres cubes d'eau par hectare. Et enfin, on peut mesurer, pour ce qui est de l'interception de la pluie, la quantité d'eau qui arrive réellement au sol pendant les pluies. Donc ça consiste à mettre des pluviomètres sous la forêt, donc en dessous du feuillage. Et donc ça, on récupère comme ça l'eau qui arrive au sol par égouttement, directement depuis les feuilles. Et on peut mesurer aussi l'eau qui arrive par ruissellement le long des troncs, et qui peut être aussi une part importante, en particulier quand les événements pluvieux sont forts, puisqu'il y a toute une partie de cette eau qui est captée par le feuillage des arbres, et qui ensuite est absorbée par l'écorce, et quand l'écorce est gorgée d'eau, ça ruisselle le long du tronc. Et ce qui fait que les arbres ont aussi un rôle, ce qu'on appelle d'entonnoir, c'est-à-dire que le feuillage capte de la pluie, qui est directement acheminée au sol par écoulement le long du tronc, et qui arrive au sol vraiment au pied de l'arbre, au niveau des racines. Et voilà, donc ça c'est d'autant plus significatif, on va dire, que les événements pluvieux sont longs et avec une forte intensité. Et donc comme ça nous permet d'avoir donc tous les termes du bilan. Et donc ça, voilà, c'est le genre de mesure qu'on met en place dans le cadre du réseau ICOS. Alors ICOS, c'est une infrastructure de recherche européenne qui s'appelle Integrated Carbon Observation System. Donc à la base, c'est une infrastructure de recherche qui a pour vocation à mesurer les flux de gaz à effet de serre au-dessus des écosystèmes continentaux ou océaniques européens. Donc, il y a même des stations marines. Ça ne concerne pas que les forêts, hein, ça concerne tous les types d'écosystèmes terrestres. Donc, il y en a beaucoup dans des écosystèmes agricoles, il y en a dans des écosystèmes forestiers, il y en a même maintenant qui sont en train de s'installer dans des écosystèmes urbains. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de mesurer ces flux de gaz à effet de serre, et comme les analyseurs mesurent à la fois le CO2 et la vapeur d'eau, on a aussi les bilans hydriques de tous ces écosystèmes. Alors des sites forestiers, il y en a un certain nombre en Europe, ils sont tous représentés ici, je ne vais pas les détailler, moi je vais juste vous parler des différents sites français qui sont concernés. Donc on a deux sites de forêts décidues tempérées, Donc la forêt de Barbeau, qui est une chênaie avec peuplement de chênes et de charmes en Île-de-France, qui est à côté du massif de la forêt de Fontainebleau. On a une hêtraie en Lorraine. On a ensuite, parmi les sites plus méridionaux, un site en pin maritime en Gironde, qui est dans le massif de la forêt des Landes. Et pour ce qui est donc plus particulièrement des forêts méditerranéennes qui nous intéressent aujourd'hui, deux sites méditerranéens. Un premier donc dans l'arrière-pays de Montpellier, qui est le site de Puéchabon et qui est un peuplement, un taillis de chênes verts, assez donc représentatif des forêts quasiment monospécifiques de chênes verts suite à la gestion qu'on a dans le sud de la France. Et on a un deuxième site méditerranéen qui est le site de Fontblanche, qui est assez proche d'ici, puisqu'il est dans les Bouches du Rhône, juste au sud d'Aubagne, donc pas très loin, et qui est un site qui a une structure végétale un peu plus complexe, puisque c'est un mélange de chênes verts et de pins d'Alep. Et donc c'est vraiment les deux espèces, les caractéristiques de la forêt méditerranéenne qui sont représentées sur ce site-là. Et donc voilà, si on regarde maintenant donc les résultats, donc ça c'est vraiment les résultats, on va dire, globaux, bruts, qu'on a sur ces différents sites. Donc je vous ai représenté ici, pour chacun des sites, les précipitations en bleu et l'évapotranspiration en gris. Donc l'évapotranspiration, donc somme de l'évaporation de l'eau libre et de la transpiration des arbres. Et donc on voit les différentes situations qu'on a au niveau français, qui sont pas toujours d'ailleurs ce à quoi on pourrait s'attendre, puisqu'on a le site qui reçoit le moins de précipitations, qui est en fait le site de Barbeau en Île-de-France, et le site qui en reçoit le plus, qui est le site de Bilos en Gironde. Au niveau des transpirations, par contre, on a le maximum de la transpiration annuelle, enfin de l'évapotranspiration annuelle, qui est justement pour ce site de la forêt de Fontainebleau. Et les sites qui consomment finalement, qui ont la moindre consommation d'eau, ce sont les deux sites méditerranéens, donc de la forêt de Puychabon et de la forêt de Fontblanche, avec donc des ratios évapotranspiration sur précipitation qui varient selon les sites. On va voir après pour quelles raisons. Et donc si on zoome particulièrement donc sur les deux sites forestiers méditerranéens, puisque voilà, c'est ce qui nous intéresse peut-être le plus aujourd'hui. On voit donc les deux situations entre Puéchabon et Fontblanche. Alors on a plus de pluie, beaucoup plus de pluie même à Puéchabon qu'à Fontblanche, qui est proche du littoral méditerranéen, je l'ai dit, entre Cassis et Aubagne. Mais on voit qu'on a une évapotranspiration mesuré qui est à peu près la même pour les deux sites, en fait, aux alentours de 450-460 mm d'évapotranspiration par an, c'est-à-dire 460 litres d'eau par mètre carré ou 4 600 mètres cubes par hectare. Alors, les journalistes parlent souvent en piscine olympique, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me suis renseigné sur environ 3 000 mètres cubes. Donc voilà, ça fait un peu une piscine olympique et demie par hectare et par an pour les sites forestiers méditerranéens. Et on a ici, donc je suis désolé, c'est coupé, mais deux autres données importantes pour différencier ces sites, c'est d'une part donc la demande évaporatoire. Donc ça, un intervenant en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, ou des fois c'est écrit ETP, c'est vraiment la demande en vapeur d'eau de l'atmosphère. Donc ça, c'est lié vraiment au climat, c'est lié à la température, c'est lié à l'ensoleillement, c'est lié à l'énergie qui fait évaporer l'eau. Donc on voit qu'on est ici sur des niveaux assez forts, qui sont supérieurs pour Fontblanche que pour Puychabon. Et ensuite, un autre facteur, c'est l'indice foliaire. Et donc l'indice foliaire, là je suis désolé, c'est coupé, mais on est entre 2,5 et 3 pour ces deux sites-là, c'est-à-dire c'est la surface de feuilles par mètre carré de sol. Quand on a un indice foliaire à 3, ça veut dire que si on prend un mètre carré de sol, on a environ 3 mètres carrés de feuilles au-dessus, avec les différents étages de végétation et la hauteur des arbres. Si on regarde maintenant donc une situation plus contrastée, au lieu de comparer les deux sites méditerranéens, si on compare le site méditerranéen de Puychabon, donc toujours le même, avec le site forestier donc aussi du chêne, mais cette fois-ci du chêne décidu dans le massif de Fontainebleau, Donc on voit qu'on a cette fois-ci une évapotranspiration qui est largement supérieure à celle des sites méditerranéens, puisqu'on arrive à 660 mm d'eau transpirée par an, avec pourtant une demande évaporatoire qui est plus faible. Mais là, l'explication, alors je suis désolé que la diapositive soit coupée, mais l'explication, c'est que là, on a un indice foliaire qui est le double de celui qu'on a sur les sites forestiers méditerranéens. Donc on a une densité de feuilles, une quantité de feuilles par mètre carré de sol qui est deux fois plus importante. Donc maintenant, si on regarde comment cette consommation d'eau se répartit entre eau verte, eau bleue, les différentes composantes, je vais essayer de me tourner. Donc on a donc le site de Tours, le site de Puy-Chabon et le site de Barbeau, les deux mêmes sites, avec la précipitation annuelle, donc dans un cas 950 mm de pluie, dans l'autre un peu moins de 700. Et donc on voit que la transpiration des arbres, représentée ici en vert, représente un pourcentage sur le site méditerranéen qui est environ 40% de la précipitation annuelle qui est réellement consommée par les arbres du site, alors que sur le site de Barbeau-Fontainebleau, on est à plus de la moitié, on est à environ 55%, et donc ça c'est justement lié au fait qu'on a une forêt avec des arbres beaucoup plus hauts, une surface de feuillage beaucoup plus importante, puisqu'on a ici des chênes qui sont des très beaux chênes de 28 mètres de haut, alors qu'on a là un taillis méditerranéen qui fait 5 ou 6 mètres de haut, donc c'est une formation végétale qui a quand même pas grand-chose à voir. L'interception de l'eau par le feuillage, c'est la partie en jaune, c'est assez intéressant, c'est à peu près la même proportion dans les deux cas, et ça représente 20% de la précipitation brute. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a réellement que 80% des pluies annuelles qui arrivent au sol sur ces deux sites. Et après, on a l'évaporation du sol, donc là c'est la partie en marron, qui est en fait très très faible, moins de 10% pour le site méditerranéen, d'une part parce que c'est un site sans pervirant, donc c'est des arbres qui ont des feuilles toute l'année, il n'y a jamais de période où le sol est à nu, il y a toujours du feuillage, et d'autre part parce que c'est aussi un sol qui est très caillouteux, avec très peu de profondeur vraiment de terre. Et donc ça protège aussi, ça limite l'évaporation, puisqu'il y a un tapis de... une sorte de paillage de cailloux en surface presque, donc ça limite l'évaporation par rapport au site de Barbeau, où là il y a le sol à nu, enfin pas complètement à nu, mais il n'y a pas le feuillage des arbres pendant toute une partie de l'année, vu que c'est des arbres décidus qui perdent leur feuillage en hiver. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, au final, comme il y a à la fois plus de précipitations à Puy-Chabon et moins d'évapotranspiration, l'eau bleue est plus importante à Puy-Chabon très largement que sur le site des décidus du nord de la France. Donc, ça c'est aussi une donnée importante. C'est vrai que ça dépend vraiment des deux. La quantité de pluie qui est quand même assez forte ici dans la région méditerranéenne, même si on parle beaucoup de sécheresse, il y a des volumes de pluie qui sont en tout cas comparables, voire supérieurs à ceux qu'il y a dans beaucoup de régions du nord de la France. Et en plus de ça, une végétation qui est moins gourmande en eau que les forêts tempérées plus septentrionales. Donc maintenant, si on regarde un peu ce qui détermine en fait la saisonnalité de cette flux d'évapotranspiration, donc là c'est les données mois par mois, c'est pour les mêmes choses, donc les précipitations en bleu et l'évapotranspiration en gris. Donc on voit que les précipitations sont, comme on l'a dit, en région méditerranéenne, les plus faibles pendant les mois d'été, et assez importante au printemps et surtout les mois d'automne, en fait c'est là qu'ont lieu la majorité des précipitations, et avec une évapotranspiration qui elle augmente au cours de l'année, en gros qui suit à peu près la demande évaporatoire, hein, c'est-à-dire quand même la quantité d'ensoleillement reçu et les températures, mais avec un maximum qui est au mois de juin et qui va avoir tendance ensuite à décliner pendant les mois d'été. Là, ça diminue non pas parce qu'il y a moins de demande évaporatoire, on sait qu'il fait aussi très beau, très chaud en juillet, mais c'est simplement parce que la disponibilité en eau du sol commence à devenir plus faible, Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les deux choses qui limitent l'évapotranspiration, c'est soit la demande évaporatoire de l'atmosphère, soit la disponibilité en eau du sol. Et sur les sites méditerranéens, on a plutôt tendance à avoir les... Oups. Oula. Ouais. Désolé, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. Je reviens. Voilà, donc avec les maximums. Et donc, je vous ai mis en dessous le lien avec justement ces deux facteurs, donc qui sont la température moyenne journalière et la disponibilité en eau du sol ici. Et on voit qu'on a bien tendance à avoir l'évapotranspiration journalière maximale qui augmente avec la température, c'est-à-dire plus il fait chaud et plus la forêt consomme d'eau. Bon, ça, c'est comme nous, hein, plus elle a chaud, plus elle transpire. Voilà, ça c'est similaire. Et aussi une relation comme ça avec la disponibilité en eau du sol, alors qui peut paraître surprenante, parce qu'on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il y a un maximum plutôt ici au milieu et pas qu'il se continue. C'est justement la typicité du climat méditerranéen, c'est qu'en général les mois de l'année pendant lesquels la disponibilité en eau du sol est à son maximum ne sont pas les mois de l'année estivaux, ne sont pas les mois de l'année où on a le plus fort ensoleillement ou les plus fortes températures. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un maximum d'évapotranspiration pour des disponibilités en eau du sol ici de type intermédiaire. Ensuite, quand elle diminue, on voit que ça limite fortement l'évapotranspiration des arbres. Donc là, je vous ai remis la saisonnalité toujours entre les deux sites de Puy-Chavon et de Barbeau. Donc pour Puy-Chavon, on a déjà vu ce qu'il en était. Pour Barbeau, ce qu'on voit, c'est que l'évapotranspiration maximale journalière ou mensuel est largement supérieur, donc ça toujours parce qu'il y a un indice foliaire qui est beaucoup plus important. On se retrouve avec des évapotranspirations maximales de l'ordre de 4 mm par jour. La différence aussi, c'est que comme c'est un site décidu, les feuilles apparaissent qu'au cours du printemps sont en gros présentes de mai à septembre, et on voit que c'est les mois où les arbres en fait ont tendance à transpirer plus d'eau, à utiliser plus d'eau que ce qu'ils reçoivent par les précipitations. Et ça en dépit du fait que sur ce site-là, on a un niveau de précipitation mensuelle qui est relativement constant au cours de l'année, qui a une saisonnalité beaucoup moins forte qu'en climat méditerranéen. Et donc, si on divise en fait la transpiration maximale par la surface foliaire, donc je vous le disais, le nombre de mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol, on voit qu'on a une transpiration max par unité de surface foliaire qui, par contre, est deux fois plus forte pour le site méditerranéen que pour le site tempéré. Donc en fait, le site tempéré consomme plus d'eau, mais c'est surtout parce qu'il a plus de feuilles. Si on divise par la surface de feuilles, en fait, le site méditerranéen, par contre, consomme plus d'eau parce que la demande évaporatoire est plus forte. Et donc ça se voit très bien quand on fait ce genre de graphique. Donc là, je vous ai remis les 5 sites forestiers du réseau ICOS français. Et donc vous avez sur le côté gauche de la diapo, la demande évaporatoire, en abscisse, la demande évaporatoire, donc plus on est ici, plus on est dans un climat desséchant et qui fait évaporer l'eau rapidement. Et ici, vous avez l'évapotranspiration par unité de surface foliaire. Et donc ce qu'on voit, c'est que les sites méditerranéens, on transpire plus par unité de surface de feuilles parce qu'ils sont dans un climat plus sec et plus chaud que les deux sites tempérés qui sont ici, la Hêtraie-Lorraine ou le site de Barbeau. Et vous avez la forêt des Landes, la forêt de pins des Landes, qui est ici dans une position intermédiaire entre les deux. Et là, ici, c'est le graphique exactement inverse, c'est-à-dire c'est l'évapotranspiration réelle, donc c'est la quantité d'eau qui est évaporée chaque jour, en proportion entre deux, l'évapotranspiration maximale, c'est-à-dire de la demande évaporatoire de l'atmosphère, du maximum que la forêt pourrait évaporer avec l'énergie reçue du soleil et du vent pour un jour donné. Et donc plus on est vers 1 et plus on est au maximum de ce qui est faisable. Et ce qu'on voit, c'est que ça augmente avec l'indice foliaire. C'est-à-dire qu'en fait, plus la forêt porte de feuilles, plus les arbres sont hauts, plus il y a de hauteur de branches, de hauteur de végétation, de quantité de feuilles, et plus la forêt va être capable d'évaporer en proportion de la demande évaporatoire de l'atmosphère. Avec encore, donc cette fois-ci, les sites méditerranéens, qui sont ceux où l'évapotranspiration est finalement la plus faible par rapport à la demande évaporatoire. Et donc la conclusion de ça, c'est la phrase que j'ai mis ici, c'est que les forêts consomment d'autant plus d'eau qu'elles sont denses ou qu'elles poussent sous un climat aride, en fait. C'est les deux choses qui vont jouer sur leur consommation en eau. Donc là, oui, c'est pour vous illustrer le déficit hydrique estival et l'importance de la réserve en eau du sol. Donc toujours en prenant vraiment ces deux sites qui sont le site de Puy-Chabon et le site de Barbeau, puisque c'était les deux exemples les plus contrastés. Alors sur les graphiques du haut, c'est l'évapotranspiration journalière avec les précipitations. Donc là, c'est pour les deux sites. Donc pareil, on voit bien que les maximums sont supérieurs pour Barbeau que pour Puy-Chabon. Et là, je vous ai pris l'année 2022, qui était quand même une année marquée par une forte sécheresse sur l'ensemble des régions françaises, pour voir un peu donc, ce que ça donnait. Donc c'est aussi la dernière année qu'on a dans nos mesures. Et ce qu'on voit bien, c'est que sur le site de Puy-Chabon, on a une diminution de l'évapotranspiration assez marquée pendant les mois d'été, puisqu'on revient quasiment à la même évapotranspiration journalière que pendant l'hiver. Donc, c'est-à-dire que là, on a vraiment la régulation des arbres. C'est-à-dire que face au manque d'eau, face au déficit hydrique, les arbres sont capables de réguler leur transpiration, ils sont capables de fermer les pores sur les feuilles qui s'appellent les stomates et qui donc contrôlent la quantité d'eau qu'ils perdent. Et donc voilà, c'est vraiment un ajustement biologique des arbres face au déficit hydrique de réduire leur transpiration pendant les mois d'été. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est pas du tout ce qu'on voit sur le site de Barbeau, où en dépit de la sécheresse 2022, les arbres continuent à transpirer assez fortement, même pendant les mois d'été. Et les deux graphiques du bas donc, vous montrent le déficit hydrique du sol. C'est-à-dire c'est pour chaque jour la différence entre les précipitations reçues et l'évapotranspiration de l'écosystème, et l'eau qui est réévaporée. Donc en fait, on voit qu'on est en négatif, puisque il y a toute cette période de 2022, comme c'est une année assez sèche, où en fait les arbres ont pompé plus d'eau dans le sol que ce qu'ils ont reçu par les précipitations. Et donc la différence entre les deux, c'est le rôle justement d'éponge, le rôle de réservoir d'eau du sol. Donc vous voyez ici le site de Puy-Chabon, où on pompe de l'eau dans le sol. Finalement, on commence à en pomper assez fortement avant même que les arbres répondent à un déficit hydrique, c'est-à-dire que vous avez toute une période de l'année où déjà il y a un déficit, il y a plus d'eau qui est pompée du sol que ce qui arrive par les précipitations, mais sans que ça se ressente vraiment sur un effet biologique. Ici, vous avez la même chose donc, pour le site de Barbeau, et ce que je vous ai tracé ici, c'est la quantité d'eau, c'est la réserve en eau qu'on estime sur le premier mètre de sol. Donc avec les méthodes assez classiques, où on fait des fosses pédologiques, on va dans la forêt, on fait une fosse, on estime le volume de sol, et on a tendance à estimer généralement les volumes d'eau retenus sur le premier mètre. En fait, on voit que dans les deux sites, on dépasse très très largement la quantité d'eau qui est disponible dans le premier mètre de sol, donc ce qui illustre vraiment le fait que les arbres sont capables d'aller chercher l'eau en profondeur, et on sait que sur ces deux sites-là, les racines descendent à 4 ou 5 mètres de profondeur, peut-être même encore plus profond, mais en tout cas on a des mesures jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur sur ces deux sites qui montrent que les racines sont encore présentes et capables d'aller chercher l'eau à ces niveaux-là. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Pour conclure, c'était voilà, pour donner des ordres de grandeur des mesures qu'on a sur ces 5 sites forestiers qui ne prétendent pas à l'exhaustivité. Hein, bien sûr, on n'a que 5 sites dans le réseau ICOS. On ne caractérise pas tous les types forestiers français et toutes les situations de gestion de densité ou pédoclimatique, mais ça montre quand même des grandes typologies des espèces françaises et des types forestiers français, avec deux sites méditerranéens, une plantation de pins maritimes, deux sites de décidus tempérés. Et on se retrouve avec des niveaux d'évapotranspiration donc, qui sont entre la moitié et la totalité, selon les sites et les années, des précipitations qui sont consommées par la forêt. Donc c'est vrai que les forêts sont quand même consommatrices d'eau, enfin, voilà, il faut en avoir conscience, mais les intervenants précédents l'avaient déjà dit. Ce qu'il faut voir, c'est que la transpiration des arbres, donc l'eau qui est vraiment proprement consommée par les arbres pour leur fonction biologique, pour leur photosynthèse, pour leur croissance, ça représente en moyenne qu'environ 60% de ce total, puisqu'il y a toute une partie de l'eau qui est perdue différemment, par évaporation depuis le sol, par interception sur le feuillage. Donc voilà, c'est pas toute l'eau qui est transpirée par les arbres ou qui est vraiment pompée en profondeur par les racines. Ce qu'on voit, c'est que la consommation en eau des forêts, elle augmente avec trois facteurs. C'est d'une part la demande évaporatoire de l'atmosphère, donc le rayonnement, température, la densité du couvert forestier. Plus un couvert forestier est dense, plus il a d'indice foliaire et plus il va transpirer. Et aussi, le troisième facteur, c'est la disponibilité en eau du sol. Plus le sol va pouvoir retenir une quantité d'eau importante qui va pouvoir être rendue à l'arbre pendant les périodes de déficit hydrique, donc pendant les périodes où il pleut peu, pendant les mois d'été, et plus la transpiration va être forte. Si le sol stocke peu d'eau, même s'il y a une forte demande évaporatoire, même s'il y a une forte surface foliaire, si cette eau n'est pas disponible, les arbres vont être contraints de fermer leurs stomates et de réduire leur transpiration pendant les mois d'été. Une autre conclusion, c'est qu'il y a une partie vraiment importante de l'eau qui est transpirée par les arbres, en particulier pendant les mois d'été, qui ne vient pas du sol superficiel, mais qui vient du sous-sol et qui est pompée vraiment en profondeur. Mais ça, pareil, vous aurez d'autres exposés là-dessus plus tard, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Et voilà, et pour faire aussi un peu de pub, nous, de notre côté, pour le réseau ICOS, qui est un réseau vraiment au niveau européen, sur tout type d'écosystème, qui est maintenant complètement opérationnel depuis plusieurs années, qui enregistre ces données en continu, et c'est des données qui sont librement accessibles à tout le monde et centralisées sur des serveurs au niveau européen, traitées de façon homogène, et qui va vraiment pouvoir nous apporter des données actualisées, permanentes, du fonctionnement des écosystèmes forestiers européens face au changement climatique en cours et avec les situations passées, présentes et à venir de déficit hydrique. Voilà. Et voilà, je vous remercie. Je voulais juste remercier tous mes collègues, et encore, je suis sûr que j'en ai oublié, mais ça, c'est tous les gens qui m'ont contribué des données, aidé à préparer cette présentation. C'est tous les chercheurs du site ICOS France, qui sont assez nombreux, puisqu'il y a 5 sites, et voilà. Et là, vous avez les sites internet des deux infrastructures, si vous voulez avoir plus d'informations ou les données de ce réseau. Je vous remercie.
Merci. Merci, merci. Merci Jean-Marc. Peut-être peut-on demander à Nicolas Delpierre, puisque vous nous disiez qu'il était en ligne, s'il avait envie d'ajouter quelque chose. Il est là.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, très bien, on vous voit.
Oui, bonjour. Merci, merci pour les exposés qui sont très intéressants. J'ai très peu de choses à ajouter au propos de Jean-Marc, qui était très clair, j'ai trouvé. Juste pour dire, oui, que donc, la forêt de Barbeau a été mise en lumière à plusieurs reprises, et c'est super intéressant de comparer avec la forêt méditerranéenne. On aurait eu certainement des résultats un petit peu différents en montrant une autre forêt, la forêt de Hesse, par exemple, qui est proche de Nancy, dont Jean-Marc a également parlé, parce que la forêt de Barbeau repose, si on peut dire, en tout cas les arbres de la forêt de Barbeau ont accès à des nappes profondes qui sont qui tiennent, donc c'est une des particularités du site. Et pourquoi je dis ça, c'est pour parce qu'on retrouve des niveaux d'évapotranspiration sur précipitation qui sont très très importants et qui sont probablement pas représentatifs de ce qu'on va trouver dans un très grand nombre de forêts. Enfin, c'est des choses qu'on connaît assez peu, mais voilà, il est possible qu'on soit un peu dans la partie haute du spectre de ces rapports évapotranspiration sur précipitation. Voilà. C'était juste une précision par rapport au propos de Jean-Marc.
Merci. Jean-Marc, il y a un point que vous n'avez pas abordé, peut-être parce que vous êtes gêné de le faire, mais c'est la souffrance que vous imposez à ces arbres que vous nous aviez montrés à Puy-Chabon en les privant d'eau, voilà qui est fort cruel. Vous ne l'avez pas évoqué parce que ça n'entrait pas dans le propos ?
Ça aurait pu, c'est-à-dire que là, le but, c'était de présenter un peu un panorama des données du réseau ICOS. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les sites ICOS qui ont ce genre d'expérience. Mais c'est vrai qu'on a une expérimentation, mais pas que, d'ailleurs pas qu'à Puy-Chabon, le site de Fontblanche a la même chose. On a des expérimentations, on réduit les précipitations avec des gouttières qu'on a installées sous la forêt et qui interceptent une partie de la pluie, ce qui empêche une partie, ça augmente l'interception, on va dire. Donc ça diminue la quantité d'eau qui arrive au sol et ça permet de créer comme ça plus de sécheresse, un traitement expérimental avec encore plus de sécheresse et de voir comment les arbres répondent. Et c'est vrai que l'une des principales réponses, si on devait résumer brièvement, la principale réponse, en tout cas en ce qui concerne la consommation d'eau, c'est que les arbres diminuent leur surface foliaire. Ça va avoir cette tendance-là, c'est-à-dire qu'ils reçoivent moins d'eau au niveau du sol, ils vont diminuer progressivement leur surface foliaire de façon à être plus économe en eau, puisqu'on a vu quand même que l'évapotranspiration était très largement, c'est pas directement proportionnel, mais quand même très fortement liée à l'indice foliaire. Et donc ça, c'est un des ajustements, en fait. C'est vrai que face à une situation d'aridité accrue, les forêts ont tendance à devenir moins denses, à avoir une densité de feuillage moins importante. ce qui peut se produire à l'échelle de la branche, hein, simplement moins de feuilles sur chaque branche, ou à l'échelle du peuplement, c'est-à-dire aussi une densité d'arbres plus faible, plus d'arbres qui meurent ou qui dépérissent, et donc moins de... Voilà.
Vous y reviendrez peut-être demain lorsque vous interviendrez sur le régime des éclaircies et sur les tests que vous avez faits en la matière.
Voilà, on en parle un peu à ce moment-là. Ouais.
D'accord, ok, merci. Alors, chers amis, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Qui veut réagir ? Oui.
Merci, Yannick Mouredieu, cabinet de Jean Bassi, sénateur du Var.